L'intitulé de notre émission, La Croix, mais sans la bannière. Présent dans le studio, M. Éric Lemaire, dirigeant d'entreprise, avec un S, entreprise, avec une S, pardon. Beaucoup d'entreprises et beaucoup d'activités et d'intelligence, pas seulement artificielle. Éric Lemaire est ingénieur, super-héros. Il a conçu une méthode pour aider les PME à trouver les économies d'énergie et à ce titre, il est président de YOOCAN, Y-O-O-C-A-N. Son dernier ouvrage paru, il l'a publié sur le site d'Amazon. Il nous l'a présenté récemment dans une émission avant l'été. Il s'agit de l'intelligence artificielle avec comme sous-titre « Croissance et catastrophe annoncée ». Un récit qui nous fait plonger dans la révolution de l'intelligence artificielle. Une révolution qui commence et qui n'est pas terminée et dont on ne connaît pas encore la suite ni la fin. Présent par téléphone, Guy Jiquello, chef d'entreprise également, président honoraire de la Fédération des TPE, ancien membre associé de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines, ancien conseiller municipal également. Jacques Miard, par téléphone, s'il nous entend, pourra intervenir avant notre seconde partie à 19h30. Et bien maintenant, mon cher Henri, votre édito, La Croix.
Merci Alain, merci Benoît, merci tous ceux qui travaillent d'ailleurs. Alors, nous avons changé un petit peu de modèle, vous le savez, notre émission en direct a été diffusée il y a à peu près 15 jours. Ça, c'est une émission enregistrée, donc c'est pas la peine de répondre. Par contre, vous pouvez toujours m'appeler au téléphone, de plus en plus d'auditeurs m'appellent, et il y a des échanges qui sont vraiment très intéressants. Alors, La Croix, mais sans bannière. Depuis plusieurs décennies, nous portons une croix de plus en plus pesante, de moins en moins protectrice, qui n'offre plus de vision, de route à suivre, d'honneur à défendre. Quant à la bannière que brandissaient nos anciens, elle a disparu avec l'état profond, remusé tous deux sur les étagères de l'histoire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, PIB 2 917 milliards, endettement de la France 3 437. Plus grave, le budget. Rappelons que ce dernier ne s'élève qu'à 300 et quelques milliards pour les recettes, alors que la charge de la dette est déjà de 60 milliards et qu'elle atteindra bientôt les 100 milliards. Prenons conscience que les besoins de financement du pays s'élèvent à plus de 500 milliards par an, soit 168 milliards de plus que nos recettes, sans compter le remboursement de la dette. Comment arrêter l'hémorragie des déficits ? Rappelons qu'en 2025, pour fonctionner et rembourser la partie de son endettement arrivé à échéance, la France doit emprunter, c'est-à-dire s'endetter, de 510 milliards, bientôt deux fois plus que ses recettes, si les marchés et les banques se laissent faire. Comment commencer à vraiment rembourser la dette en sachant que les dépenses de l'État sont actuellement supérieures de 170 milliards chaque année à ses recettes et que les prélèvements de l'État imposent se montent à 44,8% du PIB, soit 1350 milliards. Chers auditeurs, une bonne gestion voudrait que nous ramenions le montant de ces prélèvements entre 35 et 40% du PIB, soit entre 1200 et 1550 milliards ou l'inverse. Oui, mais comment fait-on ? Deux réponses sont le plus souvent émises. La plus facile, on rogne sur les dépenses. L'autre, qui ne peut provenir de partis politiques trop à la recherche d'une clientèle, on remet le pays au travail afin de créer de la croissance, donc des recettes fiscales et sociales. Chers auditeurs, selon la BDF, notre taux de productivité par tête aura baissé de 8,8% depuis 2019. Très difficile. C'est vraiment un gros travail auquel devront s'attacher les Français. C'est un désastre, avec comme résultat notre note qui vient d'être abaissée par les agences de notation internationales, mais non seulement. Nous venons de perdre une place dans le classement mondial des puissances économiques. Alors, rogner sur les dépenses, oui, mais lesquelles et pourquoi faire ? Par ailleurs, un PIB est constitué de recettes et de dépenses. Rogner l'une ou l'autre en diminue le volume. La France. Notre grande France ne peut se résoudre à rogner quoi que ce soit. C'est vers la grandeur, en provenance de l'effort collectif, que nous devons tourner. À mon avis, la solution passe par le grossissement du PIB qui ne peut être fourni que par la croissance des recettes issues de la production. Ce sont donc 170 milliards de recettes fiscales et sociales qu'il nous faut trouver, et pour cela il faut le retour du politique, celui de l'État profond qui guide la nation et le travail des entreprises productives. C'est la raison pour laquelle nous avons invité Éric Lemaire, producteur et spécialiste de l'intelligence artificielle, Guy Giguello, patron d'une association de PME, car seuls les hommes de l'art peuvent ouvrir la voie de la reconquête de notre puissance perdue. Je vous remercie. Alors, nous avons dans notre studio Éric Lemaire. Nos auditeurs commencent à le connaître car nous l'avons déjà invité. Je suis toujours passionné par les deux livres qu'il nous a confiés, dont le dernier qui s'appelle « L'intelligence artificielle, croissance et catastrophe assurée ». Je voulais vous dire simplement que il nous annonce que l'intelligence artificielle, il dit non intelligente et non artificielle d'ailleurs, ce qui m'avait fait rire, que ça va créer quelques dégâts, même si ça a créé d'autre part des bienfaits. Mais j'ai eu une information il n'y a pas longtemps, à l'ONU, on commence à dégager les traducteurs qui sont remplacés par ces machines. Donc il y a quand même un danger. Éric Lemaire, vous êtes associé à une association qui défend. Alors, j'avoue avoir été dans l'obligation de regarder sur Internet qui était ce soldat. Comment vous l'appelez ?
Albert Roche.
Albert Roche. Ce qui est assez marrant parce que le nom de Roche est un nom aussi de ma famille, qui a été le premier soldat. Pendant la guerre de 14-18, un des plus décorés, celui qui a porté le cercueil du soldat inconnu, celui qui a manqué de se faire fusiller, hein, quelque chose d'extraordinaire. Et vous avez voulu créer une association pour qu'à chaque réunion, vous désigniez un héros français et que vous puissiez en discuter. Expliquez-nous.
L'idée, en fait, c'est qu'il faut redonner aux Français, aux jeunes Français en particulier, l'esprit de défense. Et donc, pour faire ça, un certain nombre de gens se sont rassemblés pour créer ce cercle Albert Roche, dont l'objet est de faire la promotion de l'esprit de défense de façon générale, qui est absolument indispensable à la grandeur de notre pays. Et donc, on a choisi ce nom d'Albert Roche, puisque Albert Roche est un héros français absolument exceptionnel, sorti du rang, qui a fait une quantité d'exploits invraisemblables. C'est inimaginable. Et qui donc, il a quelque part fait quelque chose de très français, c'est-à-dire qu'il a fait l'impossible en partant de nulle part. Et donc, dans le cadre de cette association, nous allons effectivement mettre à l'honneur un héros français tous les jours, civil ou militaire, pour faire la promotion de l'esprit de défense et l'esprit patriote. Voilà.
Oui, bravo pour cette initiative. On va suivre ça avec intérêt. Vous m'avez passé le schéma de votre première conférence et j'avoue avoir été agréablement surpris. Belle initiative. On va parler maintenant un petit peu de l'entreprise en France parce que, je viens de le dire dans mon édito, les taux de productivité ont baissé. Et si les taux de productivité baissent, c'est parce que l'industrie est partie, parce que tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour se remettre à flot?
Alors moi, j'ai pas mal réfléchi sur la question. L'industrie est partie. Moi, je fais partie du réseau Entreprendre aussi. On accompagne beaucoup d'entreprises dans le service, dans le logiciel. Et il y a plein de gens en France qui réussissent à créer des entreprises, à créer des emplois. Dans l'industrie, c'est pratiquement impossible. Et c'est pratiquement impossible parce que notre système général n'est pas favorable aux industries. C'est-à-dire, on comprend ce que c'est qu'une entreprise de logiciel, on comprend pas ce que c'est qu'une entreprise industrielle. Dans l'industrie, l'un des moteurs lorsqu'on crée un nouveau produit, c'est ce qu'on appelle le design to cost. C'est-à-dire faire en sorte qu'on vende un produit qui soit compétitif sur le marché. Et ça coûte très cher. Et aujourd'hui, en France, on ne sait pas le financer. Et donc, parmi tous les projets que j'ai soutenus, il y en a qu'un qui a réussi à s'en sortir par une levée de fonds auprès d'une filiale d'une entreprise américaine. Donc, c'est dire... Et ce, alors qu'on a vraiment la possibilité. Alors, si vous voulez, j'ai un certain nombre d'entreprises qui ont réussi sur ce que j'appellerais de l'industrie dérivée, par exemple, fabriquer des baskets ou des choses comme ça. Et en fait, en général, ils font produire dans ce qu'on appelle en nearshore, c'est-à-dire on ne fait plus produire en Chine, par contre on fait produire au Portugal. Et alors c'est quand même assez agaçant de faire produire des choses au Portugal par des ouvriers français expatriés, tout ça pour ensuite le vendre en France, et évidemment une partie de la valeur ajoutée nous échappe. Et dans certains domaines, le textile par exemple, c'est à tel point que c'est devenu impossible, c'est-à-dire la question n'est même plus le design to cost, la question c'est que il n'y a plus personne en France qui dispose d'une machine pour fabriquer un t-shirt. On n'en a plus du tout. Alors, on n'a plus la machine, on n'a plus les gens pour se servir de la machine, et plus personne ne sait comment on configure un patron sur une commande numérique. Donc, on part de zéro, c'est-à-dire même pour les petites séries. Souvent, les petites séries, on les fait faire en France parce que c'est très très cher de les faire en Chine. Même les petites séries dans le textile, en France, on n'arrive pas à les faire parce qu'on n'a plus du tout la matière. Mais dans les nouvelles technologies, on a le droit de rejouer, en particulier dans l'intelligence artificielle, on a le droit de rejouer. Et bon, l'avantage de s'être fait rincer comme on s'est fait rincer, c'est qu'actuellement, ceux qui dominent la planète pour la production, on va dire que c'est la Chine au sens large, l'Asie du Sud-Est, leur industrie, qui donc a été créée ces 40 dernières années, elle n'est pas vieillissante, mais ça ne va pas tarder. Donc, comme on repart de zéro, et ben quand on va s'y remettre dans 5 ans, 10 ans, quand on va décider qu'il serait temps de financer un peu l'industrie parce que c'est pas possible de continuer comme ça, et ben on va repartir avec des machines neuves et donc on sera de nouveau compétitif. Parce que le moment où le salaire moyen en France va passer en dessous du Portugal et de la Chine, il n'est pas si loin que ça en fait.
Alors, pour vous, premier problème, financement. Pour moi, j'aurais tendance à penser qu'en fait, la France, elle n'aime pas l'industrie. Je ne sais pas si la France aime ou n'aime pas l'industrie. Je pense que les Français n'aiment pas l'industrie.
Ah, je suis d'accord avec vous. Le premier problème, la raison pour laquelle on s'est mis à créer des entreprises en France, c'est parce qu'on a changé de culture. La notion start-up est devenue tendance en France. Et le truc, c'est que la production, elle est pas tendance.
Elle n'est pas tendance. Elle l'a jamais été. En fait.
La notion d'apprentissage à l'allemande, c'est considéré comme une voie de garage en France.
Moi, je repars sur l'histoire de France. Colbert s'était aperçu qu'on n'aimait pas produire. Il a créé, avec juste raison, des manufactures dans lesquelles le prix du produit n'avait pas d'importance. C'est-à-dire qu'il faisait produire par ces manufactures des choses qui étaient belles et solides. Et d'un seul coup, moi je pense, c'est mon idée, je pense que depuis les années 80, on a voulu, je ne sais pas pour quelle raison, on a voulu arrêter le beau et le cher, et puis aller dans le moyen de gamme et dans le bas de gamme. Oui, mais le bas de gamme, quand vous avez un salaire à 1000 euros, et puis que le concurrent il a un salaire à 200 euros, vous ne pouvez pas gagner, c'est pas possible. Je pense que c'est ça. Si vous le permettez, on demande à Guy Jiquello ce qu'il en pense. Oui, allô, Guy Jiquello.
Oui, bonjour à tous. Écoutez, moi je pense, modestement, pour ce problème d'industrie, pour l'avoir vu se développer, décliner, je parle de l'industrie proche, hein, il y a 50 ans, les industriels, nous en avions. J'ai connu le déclin de l'industrie textile, où nous avions dans le nord de la France des milliers, des centaines d'usines, peut-être un petit peu démodées, mais tout était possible. Par contre, ces usines, pourquoi elles ont disparu? C'est pas parce que les machines n'étaient pas assez modernes ou assez rapides, c'est qu'on les a surchargées d'impôts, de taxes, de CVA, d'impôts de production, puisque savoir qu'on est un des rares pays en France, vous payez d'abord un impôt de production avant de produire et de vendre le moins de produits, qui en général vous met la trésorerie en l'air. Voilà un petit peu, c'est le premier point, mais je répondrai sur d'autres points.
Oui, parce que je vais vous interroger tout à l'heure sur le problème du financement. Vous êtes tous sur l'histoire du financement. Il s'avère que dans ma vie, j'ai été attaché direction dans une banque, donc je pourrais aussi en parler. Alain veut intervenir. Alain,
oui, je voudrais apporter quand même un petit bémol là aux deux argumentations sur effectivement la fin que l'on constate, qui est réelle, de l'entreprise au point d'aller faire des t-shirts au Portugal avec des expatriés français pour certains. Il faut quand même se souvenir, cher Henri, et vous le savez mieux que moi, que la France, si on prend l'aluminium, a été numéro un mondial. Si on prend la téléphonie, les câblages et les réseaux, numéro un mondial ou numéro deux, peu importe. Si on prend la recherche pétrolière, numéro un mondial. Si on prend la production d'énergie électrique nucléaire, numéro un mondial, etc., etc. Nous ne sommes pas devenus ces numéro un par un accident de l'histoire. C'est une démarche absolument construite qui a été reprise d'ailleurs, Eric citait la Chine au sens large, par un pays de 45 millions d'habitants qui s'appelle la Corée du Sud et qui a fabriqué, en reprenant simplement l'expérience française de 1958-60 à 1975, simplement en prenant rigoureusement la même réflexion, la même méthode, sans devenir une dictature étatique, et qui a fabriqué ses numéros 1 mondiaux, Samsung, LG, et nous les connaissons. Et comme le dit Eric, finalement, en quelques années, c'est très rapide. Nous sommes victimes d'une volonté de ne pas faire travailler les entreprises et d'une deuxième volonté derrière, qui elle est assez grave, de vendre du capital, de céder des actifs à n'importe quel prix, le dernier étant Alstom.
Alors, il faut faire très très attention, parce que je suis d'accord avec vous sur tout un tas de points, sauf qu'il y a une notion de marché aussi qui existe. Il est vrai que quand vous avez devant vous un marché de 1,4 milliard d'habitants et un marché de 65 millions de pseudo-possibles consommateurs, ce n'est pas tout à fait la même chose. En plus, ce marché de 1,4 milliard d'habitants, il est vierge. Tandis que si vous voulez vendre des frigidaires en France, tout le monde a son petit frigidaire ou son grand frigidaire. Donc ça aussi, c'est une notion. C'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On a abandonné le haut de gamme pour aller quelque part où il ne fallait pas qu'on aille. Mais tout le monde a raison. Il y a plein de raisons qui font que je pense que le Français n'aimait pas la musique. Je pense que Mitterrand pensait que l'industrie était sale. Et je pense surtout qu'il a cru, mais il n'était pas le seul, hein, il a cru à un moment donné de l'histoire que le service serait supérieur au productif. Donc, est-ce que vous avez des réflexions sur ce qui vient d'être dit? Sans ça, on passe au financement.
Ah mais oui, absolument.
Je peux me permettre une petite variante?
Oui, oui, Guy.
Écoutez, je pense que nous avons délaissé la pensée scientifique qui, dans les 50, 60, est dans la partie technique, au profit de choix politiques. Remarquez, il n'y a pratiquement plus de polytechniciens dans nos ministères. Donc, si vous voulez, à partir du moment où il n'y a plus d'ingénieurs, le marché, il vivote, mais il ne se lève pas. C'est l'un de mes avis. Je pense qu'on a abandonné la pensée scientifique au détriment d'une pensée financière, rentabilité immédiate. C'est pas toujours un amortissement sur 2 ou 3 ans, ça peut être 20 ans ou 30 ans. Souvent, voilà, c'est aussi pensée scientifique qu'on a oublié, c'est mon avis.
C'est un peu ce que je dis, mais je le dis autrement. On est passé, d'après vous, on est passé de Polytechnique à l'ENA, c'est-à-dire on est passé du productif.
Exactement. Aux intellectuels de l'administration ou du droit.
Tout à fait. Mais en politique, c'est la même chose. Hein. Il n'y a plus d'ingénieurs à l'Assemblée nationale, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus que des énarques, ou ex-énarques, ou ceux qui auraient voulu être énarques.
Nous avons plus de... Si, je crois que Dassault a été une fois.
Oui, il y en a toujours un ou deux qui traînent. Mais...
Il y a quelques-uns qui traînent, mais ces gens qui étaient le fer de lance de nos activités, parce que sans revenir sur le passé, je disais tout à l'heure, Alain, les industriels, les techniciens, les ingénieurs ont été largement à la hauteur sur une bonne vingtaine de secteurs, parce qu'il y a plusieurs secteurs bien donnés, où là, effectivement, et il reste encore quelque chose, mais on en parlera tout à l'heure. Merci.
Mais il y a autre chose qui s'est passé. C'est les gens de ma génération, qui est la vôtre, hein. C'est-à-dire qu'on a tous voulu lorsqu'on a eu des enfants, faire en sorte qu'ils fassent autre chose que ce qu'on faisait. Et le nombre de... J'avais un copain qui était médecin et qui interdisait à son fils d'être médecin en disant « tu te rends pas compte, c'est un boulot de dingue, etc. etc. » Et puis vous avez le soudeur qui disait la même chose à son fils, et on a toujours voulu faire de nos enfants des bureaucrates, enfin des gens des services, etc. Nous sommes, d'abord, dans toute politique, on est tous responsables un petit peu de quelque chose. Je voudrais qu'on reparle de... Mais je regarde, vous savez, je l'ai repéré depuis longtemps, il est dans le studio, mais tant pis, Éric Lemaire. C'est quand même une génération montante, et c'est une génération qui n'est pas du tout la nôtre, qui n'est pas comme la nôtre, et c'est une génération qui veut produire, et je pense que maintenant, il faut absolument que nous, les vieux, on les aide, ces jeunes, à sortir de l'anonymat. Je vois le nombre d'associations qu'il fait, le nombre de... Et il n'est pas tout seul dans ce genre-là. Moi, je pense que notre jeunesse, elle est très belle, elle est bonne, et qu'il faut absolument non pas l'enterrer avec nos idées à la gomme, mais qu'on la ressorte. Sur le problème, alors tout à l'heure, Éric Lemaire, justement, nous parlait des plus gros problèmes pour l'industrie, et pour lui, c'était quand même le problème du financement. Je lui demandais ce qu'il en pense, et on en reparle chacun à son tour après.
Bah sur le financement, on ne sait plus, en fait, financer ces choses-là. C'est-à-dire que, concrètement, lorsque je vais chercher des sous pour développer un nouveau logiciel ou pour recruter des gens, il n'y a pas de difficulté particulière. Que ce soit la BPI ou les banques privées traditionnelles, elles comprennent ça. Et il y a des garanties, il y a tout ce qu'il faut. Par contre, on fait la même chose pour aller fabriquer un moule, par exemple, et sortir 10 000 exemplaires au lieu d'en sortir 3. Et bien là, on n'arrive plus à se financer. Parce que ça ne rentre plus dans les cases, en fait. Et c'est un problème culturel, c'est-à-dire on ne comprend pas, l'industrie s'est considérée comme pas très propre, et puis justement moi les gens de ma génération, on les a éduqués avec Zola, on les a éduqués avec tous ces trucs-là, nous on est bien contents d'être dans le service, on est cadre supérieur ou chef d'entreprise, on n'a jamais affaire à un contremaître, hein, on sait plus ce que c'est un contremaître.
Pas de petit chef.
Il y a pas de petit chef, c'est cool, ça marche tout seul, c'est du service, c'est propre, il y a jamais personne qui se blesse, il y a jamais rien de tout ça. Et donc quand tout d'un coup on nous parle d'industrie, mais c'est l'horreur, une commande numérique, on peut s'y couper un bras dans ce machin-là. Donc il y a vraiment un problème culturel, et ce problème culturel, il est remonté jusqu'aux banques qui ne savent plus le faire.
Alors je sais pas si les banques ont su faire.
Moi, je voudrais compléter ou amender. Enfin, il y a un décalage de génération entre un boomer tel que nous sommes là, Henri et Éric Lemaire. C'est que il y a un problème, c'est certain, et vous le soulignez parfaitement, dans la confrontation avec tu finances ou tu finances pas avec un établissement bancaire. Mais le problème n'est pas culturel. Prenez un exemple que l'on a sous les yeux. Un des problèmes de l'EPR français nucléaire, c'est qu'on n'a plus de soudeurs. Bon, est-ce que vous pensez que c'est un problème culturel? Moi, je vous dis, il n'y a plus de soudeurs parce que les soudeurs, on les a mis dehors. Il n'y avait plus de travail pendant 20 ans. Et un soudeur potentiel ne va pas vers la soudure quand il n'y a pas d'embauche. C'est pas culturel. C'est pas du tout culturel.
Bah moi, je sors de super-héros quand on a décidé d'arrêter le programme de la navette spatiale. Évidemment, l'espace dans la partie super-héros, il a disparu. Hein.
Voilà. Mais est-ce que c'est un problème culturel? C'est le problème de la culture de l'État. La culture de l'État a propagé, je pense.
Et d'une génération. Ma génération.
Je crois qu'il y a un étatiste bien connu qui a dit que la pourriture du centre se propage à la périphérie. Hein.
Voilà. Bon. Mais l'effet de taille ou de culture, je mettrai en contrepoint. Là. Tout à l'heure, Henri, vous parliez de la taille de la Chine qui a un marché intérieur important. Mais je reviens à l'exemple coréen qui fait un numéro un mondial
des frigidaires avec
45 millions d'habitants.
Oui, mais ils vont à la Chine.
Mais ils vont dans toute l'Europe.
Dans le monde. Dans l'Europe, on n'achète plus.
Il est numéro un devant tous les autres.
Alain, ça fait 30 ans, 40 ans que je n'ai pas acheté un frigidaire. J'aurais peut-être acheté deux ou trois dans ma vie.
Eux en vendent. Hein, oui.
Alors moi qui suis fournisseur de deux ou trois marques mondiales à un niveau très élevé au marketing, L'IMIE, c'est-à-dire l'Europe, pour faire court, n'a été dépassée par l'Asie que très récemment.
Ah oui, ça c'est vrai.
Samsung, il y a 10 ans, c'était l'Europe et les États-Unis. Hein. La Chine et le Japon, c'était pour le plaisir. Quoi. Oui.
Par contre, depuis quelques années...
Ah bah là, c'est autre chose. Depuis 5 ans, c'est différent.
Mais je reviens sur mon histoire, culturelle, pas culturelle. J'ai une fille qui fonctionnait pas à l'école, mais vraiment pas. Et elle est rentrée dans un lycée professionnel. Depuis, elle a une énorme place dans une très grosse entreprise française. Elle gagne très bien sa vie. Et elle est allée dans un lycée professionnel. Et un samedi, elle est rentrée à la maison et elle a nettoyé une salopette. J'avais jamais vu ça à la maison. Ça m'avait choqué. J'ai cru qu'elle était foutue. Et je me suis trompé... Donc, mais j'ai pas dû être le seul à avoir ce réflexe. On ne nous a pas fait aimer le travail manuel. C'est ça qui était le gros problème. En ce qui concerne le financement, c'est vieux l'histoire du financement. D'abord, vous le savez, l'argent dans certaines religions, dont celle de la France, était un péché. Jusqu'à peu près Philippe le Bel, on ne prêtait pas d'argent. Les Juifs à l'époque, qui n'avaient pas la même religion, prêtaient de l'argent, et ils ont inventé la banque française, pure d'escompte, le billet d'escompte, tout ça, ce sont eux qui l'ont. Donc il y a eu, on en a voulu aux uns, et puis on n'a pas aimé l'autre, c'est-à-dire qu'on n'a pas aimé l'argent, le trafic... Vous allez aux États-Unis, le type, il vous demande tout de suite combien vous gagnez. Demandez ça à un Français, vous allez être reçu. Alors, il y a ce problème. Et le Français, lui, par contre, il amasse. Regardez un petit peu, on n'a jamais eu autant d'argent sur les livrets de caisse d'épargne qu'actuellement. 19% de l'argent disponible, alors que nous sommes en pleine crise. Donc, il y a ce problème où il faudrait arriver à convertir les gens de prêter de l'argent pour gagner plus d'argent, etc. On a réussi, sous le général de Gaulle, avec les emprunts. Pourquoi ? Parce que, uniquement, on avait lancé des obligations à l'époque, moi je l'avais placé partout. Et ces obligations, en bas, c'était marqué « garantie par l'État ». Or, les Français, qui n'arrêtent pas de cracher sur l'État, n'ont confiance qu'en l'État. Et c'est ça, il faudrait reprendre un petit peu cette formule. On va demander à Guy Jiquello ce qu'il en pense. Allô ?
Aujourd'hui, pour les fonds propres qui demandent pour l'ensemble des entreprises, hein, que ce soit des grandes ou des petites, bon, c'est quand même aussi une question de financement global par le monde financier, parce que les entreprises n'ont pas suffisamment de fonds propres pour assurer leur fonds de roulement. Par contre, aux élus de pousser un petit peu tous ces financiers qui nagent dans le liquide, je dirais, à investir vers des secteurs qui ne sont peut-être pas prioritaires, mais qui sont indispensables pour la vie d'un pays. Donc on a laissé partir nos usines, on vient d'en parler, on a abandonné certaines formations. Bon, maintenant, si on veut vraiment relever le challenge, qui est possible, parce qu'on a des ingénieurs, des techniciens de très bon niveau, et j'écoutais tout à l'heure Eric Nomer qui ne manque jamais d'idées, il a une idée par semaine, qui prouve bien qu'un entrepreneur, il est toujours à l'avant. Donc, obligeons ou donnons un peu des moyens à nos financiers de vraiment jouer le jeu, parce que, j'en ai parlé d'Eric, j'ai entendu au Sénat dire que très souvent, face à des difficultés passagères de certaines entreprises, le monde de la finance est aux abonnés absents. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric.
Ah non, c'est sûr. Et j'ai encore une discussion avec un fonds il y a très peu de temps qui m'a expliqué, voilà, le seul domaine, je lui ai présenté un certain nombre de projets qui avaient tous un certain potentiel. Et il m'a dit, oh, mais le seul où il y a un coef de X, c'est celui-là, donc développer là-dedans, je mettrai des sous. Sinon, ça n'intéresse pas.
Il n'y a pas la culture du risque, en définitive. Mais on est un peuple très conservateur. Hein. issus du monde paysan, les pieds dans la terre, et quand quelque chose existe, ça existe, prendre un risque, ça, c'est pas la même chose. C'est cette culture qui nous manque un petit peu, ça rejoint ce que disait Alain tout à l'heure en parlant de phénomène culturel. Mais il va bien falloir un jour ou l'autre que l'argent il sorte des livrets de caisse d'épargne. Parce que, quoique, j'ai travaillé à la banque quand l'inflation était à 15% et qu'on donnait 8% aux livrets de caisse d'épargne, et donc les gens perdaient 7% à chaque fois, et le jour où les livrets de caisse d'épargne ont donné 1% et que l'inflation était à zéro, les gens ont réclamé leurs 8% pour mieux les perdre. Donc il y a aussi peut-être un manque de culture sur le plan de la finance. Mais si on aime la France, on sait bien que, vu ce qui se passe actuellement, c'est plus possible. Et il faut que les Français aient envie que cette France remonte à la surface. Et pour cela, il faut qu'ils comprennent qu'elle n'a pas besoin de dette, mais qu'elle a besoin d'argent. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres ?
Cet argent existe, nous le savons. Vous avez tout à l'heure dit que les Français avaient placé plus de 160 milliards d'argent dans la caisse d'épargne, qui dort, parce que si cet argent
n'est
pas dans l'industrie, voilà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de services, de secteurs qui nagent dans des fonds, je ne sais pas quoi en faire.
Tout à fait.
On leur envoie de l'argent. Moi, je prends un exemple qui est assez surprenant, que j'ai bien connu. On a parlé il y a quelque temps de la filière de l'hydrogène. Bon, l'État, dans sa grandeur, à l'époque, on avait un petit peu d'argent, il y a 3-4 ans, a dit il y a un budget. On envoie ce budget. Bon, comme ils ne savaient pas où le mettre, parce qu'il y avait très peu d'industriels qui avaient besoin d'industrie, on a renvoyé cet argent dans l'administration. Et les recherches, en l'occurrence, c'était le CNA, le CEA ou l'ONRS, le CNRS, pardon. Mais comme ils travaillaient pour chez l'hydrogène, donc ils ne connaissaient pas trop le sujet, mais ils ont embauché du personnel. Donc ça veut dire que très souvent, et on le voit dans l'administration, on finance des services qui ne servent à rien du tout, alors que financer un artisan, un commerçant, un industriel, c'est une priorité. Et vous avez parlé pourquoi l'argent ne sort pas. C'est que malheureusement, tant qu'on ne fera pas une défiscalisation à 100% des sommes investies dans le commerce ou dans l'industrie, ben vous ne verrez pas l'argent arriver par capillarité, ce que disait notre président.
Moi, je pense que c'est aussi un autre problème. Financer l'artisanat sera beaucoup plus difficile, à part le cercle de famille. Je ne vois pas. Actuellement, nous avons un certain nombre de restaurateurs qui rencontrent, je parle de restaurateurs qui font de la restauration, qui ont des problèmes. Je crois que ils battent tous les records en dépôt de bilan. Sauf que là, je ne vais pas me faire que des amis, mais quand même, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont installés restaurateurs et qui auraient mieux fait de prendre un autre métier. Donc, si on spécialisait dans les métiers, si on repartait sur le bon, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on mange plus de produits américains que de cuisine française. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on va financer la cuisine américaine ? Je pense que non. Et puis...
Déjà, puisque vous parlez de l'industrie américaine, qui nous inonde de ces produits pas très fameux, honnêtement, j'en ai jamais mangé. On a dit que ce n'était pas bon. Il paye beaucoup moins de taxes qu'un restaurateur qui, lui, cuisine son produit. Lui, il paye de même, je crois, c'est une taxe à 20% comme tout le monde, parce qu'il a l'erreur de cuisiner chez lui, et c'est un bon produit. Donc, vous voyez, on ne facilite pas la vie au bon producteur, et puis on achète, on subventionne la malbouffe.
Oui, mais c'est ça.
Je repasse la parole.
Vous avez tout à fait raison, c'est ça la raison. Et puis, il y a une inquiétude, et là, on va retomber dans le domaine d'Éric Lemaire, c'est quand même cette intelligence artificielle qui fiche la trouille à tout le monde actuellement. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah bah, c'est comme tout, hein. On a peur de ce qu'on ne connaît pas.
Oui.
La clé de l'intelligence artificielle, c'est la formation. Il faut apprendre à s'en servir. Alors effectivement, il y a un certain nombre de jobs qui vont disparaître, mais le truc, c'est qu'il suffit que ce ne soit pas vous. Il y a, en économie, il y a la notion de coefficient multiplicateur. À partir du moment où vous vous montrez capable d'être plus performant de 2 ou 3% que vos concurrents sur un marché, vous allez tous les manger. Alors si les Français se montrent plus performants que leurs voisins, bah, ils vont manger leurs voisins. Pour revenir une seconde sur ce que disait Henri à l'instant, moi j'ai un exemple paroxystique de ça. J'ai un ami qui a un site internet, il vend des trucs. Et tous les ans, la DGCCRF vient le voir pour lui dire « Ah oui, mais alors attendez, là sur tel bouton, sur les soldes, pas exactement comme dit la réglementation. » Et il reste procès verbal et patati et patata. Et un jour, mon ami en a eu assez, il leur a dit « Écoutez, moi je sais très bien qui c'est qui vous dit ça, c'est lui. » Et lui, il respecte pas non plus. Alors pourquoi est-ce que vous venez me voir moi ? Et alors là, le gars de la DGCCRF lui a fait cette superbe réponse « Mais monsieur, ce monsieur est installé au Luxembourg, je peux pas le contrôler. »
Eh oui.
Voilà, bon bah tant que c'est comme ça, ça peut pas marcher.
Vive l'Europe.
Ça peut pas marcher, tant que c'est comme ça, ça peut pas marcher.
Non. Quand vous aviez, c'est pas exactement pareil, quand vous aviez les impôts sur les sociétés, entre, je crois que c'est l'Irlande à 12% et chez nous, qu'on était à 30 à l'époque, ça peut pas marcher, c'est pas possible.
Ah bah le même ami utilise Google pour faire sa pub, il paye 250 000 euros par mois de pub Google, donc il reçoit une facture de Google Irlande, avec le logo de l'Irlande, 250 000 euros, TVA zéro, charge sociale zéro, impôt zéro, voilà. Merci d'être venu, quoi.
La véritable raison de notre déclin, c'est qu'on s'est mis à faire des réformes, des papiers, des ceci, des cela, et que les autres ont compris, ils ont diminué la pression du papier. Et on ne peut pas gagner. J'écoutais un livreur anglais, pilote d'un camion, qui disait qu'il lui fallait remplir 37 cases pour passer en Angleterre. Tandis que l'anglais, quand il passait comme ça les doigts dans le nez. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Cette phobie de la paperasse est quand même en train de nous tuer actuellement. Notre intelligence artificielle, parce que c'est quand même votre domaine privilégié, qui est... J'ai l'impression que les États-Unis prennent ça en considération, ils sont en train de le développer plus vite que nous. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est un enjeu qui est absolument essentiel. La totalité des métiers de service va être reconstruite par intelligence artificielle du début jusqu'à la fin. Donc le service après-vente, les catalogues, les résumés, les textes, la communication, les échanges, tout est modifiable et pas forcément dans un sens de suppression des emplois ou de diminution de la valeur ajoutée, c'est le contraire. Moi, je travaille 10 heures de moins par semaine qu'il y a 6 mois et je dors une heure de plus par jour, donc c'est formidable. Et en plus, je fais de la marge, alors que demande le peuple ?
Ah bah oui !
Il faut se dépêcher de mettre une taxe là-dessus, hein,
ça, oui.
histoire que ça s'arrête. Mais, et c'est vraiment ça. Et l'enjeu, c'est d'apprendre à s'en servir, c'est de s'y former. Et l'impact, il est gigantesque. Moi, j'écris plus un courrier, j'écris plus un mail. Enfin, c'est fini tout ça.
Ah, c'est sûr que c'est une société qui est en pleine évolution. Et vous avez raison, il faut la comprendre. Chez nous, on n'a pas l'art d'apprendre des choses comme ça. Nous sommes des découvreurs. On fait des tonnes de choses magnifiques, puis on s'en débarrasse à une vitesse grand V. Et le petit Chinois qui est derrière, il est là, il y a des sous à gagner. Et qui rachète pour quatre fois rien, quoi. C'est ça le...
Bah, c'est un peu la fin de la formation initiale, en fait. Parce qu'on est en mesure d'apprendre n'importe quel métier à n'importe quel âge avec l'intelligence artificielle.
Ben oui.
Et c'est extrêmement spectaculaire. Hein.
Et quels sont les métiers aujourd'hui ? Je regardais Alain... Et la presse, c'est en train de mourir, la presse, si ça continue.
Ah bon, il y a encore une presse ?
Oui, encore.
Non, mais elle est morte, la presse.
Elle est en train de mourir, complètement. Totalement. Ouais. C'est l'État, en définitive, qui s'est disloqué. J'ai eu un entretien...
Le problème de la presse, si vous voulez, c'est l'esprit d'éditorial. On a aujourd'hui des journalistes dans les grandes rédactions qui ne sortent plus. Ils ne sortent plus, ils prennent les dépêches AFP et puis ils font un papier. Mais ChatGPT est bien meilleur que ce jeu-là.
Ben oui.
Donc ils n'existent plus. Les seuls journalistes qui vont exister, c'est ceux qui vont sur le terrain, qui rencontrent des gens, qui leur racontent des trucs qui ne sont pas visibles sur les réseaux.
Oui, tout à fait.
C'est la seule chose qui va continuer à exister. Mais ça, par contre, il y a une valeur ajoutée.
Là, il va falloir qu'ils soient costauds, les gars, mais on aura les meilleurs.
Ben, ils vont ressortir.
Et ils vont ressortir.
Non, mais vous connaissez, vous, un journaliste qui sort? Moi, j'en connais aucun.
Hein. Non, non, non.
Oui, mais il ne peut pas travailler dans un journal.
C'est ça.
Parce que dans le journal, il y a des salariés, point.
Voilà. Puis là, on est à la radio, mais la presse actuellement est soumise à des coups de boutoir d'un petit peu partout. Il y a des grosses, grosses fortunes qui se battent pour obtenir tel ceci ou tel cela. Là aussi, ça va devenir un problème, et là aussi, les gens ont peur. Se lancer dans de telles aventures, c'est pas facile. Le problème, moi, je reviens quand même au problème de l'argent. Parce que nous avons actuellement à peu près en épargne 12 000 milliards. C'est pas de la rigolade. Dont 6 000 milliards en cash. 6 000 milliards en cash, on finance toute notre industrie. Hein. Et plus. Le problème, c'est de faire sortir cet argent dormant et de le mettre en activité. Alors, comment faire? Il faut inventer des produits nouveaux, mais dès qu'on invente un produit nouveau, il est racheté par quelqu'un d'autre. Il y a aussi le problème qu'on ne sait pas se protéger. Ça, on n'a jamais trop su. Et puis, on ne sait pas vendre. Vous avez en France des écoles de commerce. Il n'y a plus d'école de vente. Il y a eu deux écoles de vente, l'école polytechnique de vente, et puis une autre école américaine, bien sûr. Elles ont disparu, l'une a disparu complètement, l'autre a été rachetée par Pernod Ricard, et par, à l'époque, le Crédit Lyonnais. Pernod Ricard est venu, grâce à la formation de ses représentants, première boîte spirituelle du monde. Et surtout que lorsque on a suivi les cours de ces écoles, les Français s'y adaptent très vite, ils adorent ça. Mais si on ne leur présente pas le produit, ils ne peuvent pas y aller. Donc, on a un véritable problème de savoir vendre. Quand vous regardez en politique, s'il y a un type qui aujourd'hui sait se vendre, c'est Donald Trump. Il fait que ça. Hein, il ne sait pas produire, mais il sait se vendre. Il se vend partout. Et moi, j'aurais cru que ça aurait créé des tas de conflits. Rien du tout, ça passe comme une lettre à la poste. Donc le savoir vendre est quand même rentré dans la culture mondiale, mais pas dans l'autre.
Il y a l'esprit d'équipe aussi.
Ah.
On apprend. On est d'excellents ingénieurs, mais on n'apprend jamais à travailler en équipe.
Ah, ça c'est important aussi.
C'est un autre sujet, c'est parce que ça fait partie des choses qui font qu'on a du mal à créer des sociétés de plus de 10 salariés, puisque notre problème en France, c'est notamment les ETI, les boîtes entre 50 et 500. Alors il y a des raisons fiscales, bien sûr, mais il n'y a pas que des raisons fiscales. Il y a aussi la difficulté des gens à travailler ensemble.
Oui.
Et ça, c'est un vrai sujet. En France, c'est un vrai sujet. On ressemble un peu à la Russie, en fait. On n'a pas d'entreprise de taille moyenne. On n'a que des monstres ou des individus.
C'est ça, voilà, le problème, il est là. Et l'individu qui est forcément tout seul, se lasse quand même assez vite hein, et rejette un petit peu les choses. Je reviens un petit peu, si vous le permettez, sur l'intelligence artificielle, parce que vous nous en parlez, nous on connaît parce qu'on lit vos livres, mais ceux qui ne lisent pas vos livres. Dans la presse actuellement, lorsque vous regardez quelque chose sur l'intelligence artificielle, c'est tout mauvais. C'est tout pour détruire quelque chose. D'abord, ça commence à devenir soit chinois, soit américain, et puis les autres, on les écarte, ça n'existe pas. L'Europe est en retard, la France est en retard. Comment faire pour développer, parce que c'est une nécessité, développer l'intelligence artificielle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est demain.
Oui, enfin, moi, pour moi, c'est hier. Hein, mais...
Et bon, vous voyez la différence des générations.
Non, et puis surtout, ça ne fait que commencer. Alors, là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais le truc, c'est qu'on a un problème culturel, donc faut partir de bas. La première chose, c'est que c'est un outil absolument indispensable qui peut servir à tout le monde, tout le temps, partout. Voilà. Donc, on peut gagner en performance dans absolument tous les domaines. Rédiger ses mails, préparer, s'informer, préparer ses choses. Enfin, par exemple, imaginez que vous êtes influenceur, vous avez des choses à raconter, vous voulez savoir qu'est-ce qu'a dit machin, qu'est-ce qu'a dit bidule, vous avez 50 médias qui racontent des choses, l'outil d'intelligence artificielle, il est capable d'écouter toutes les vidéos et de vous en faire un digest avec toutes les idées, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est sorti. Et vous avez en 5 minutes un truc qui autrefois vous aurait pris 10 heures. Ben, c'est un exemple. Bon, évidemment, dans le résumé, les outils d'intelligence artificielle sont invincibles. Il y a tout un tas de domaines comme ça. C'est une première chose. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est quand même l'Occident est en tête dans toutes ces technologies. C'est apparu en Occident et ça se développe beaucoup plus vite en Occident. Parce que c'est un outil qui est plutôt orienté vers l'individu à la base. Donc il y a énormément, c'est un avantage pour nous, il faut qu'on arrête d'en avoir peur. Si les Américains sont devant, c'est parce qu'ils n'ont pas peur eux. Mais si on cessait d'avoir peur, on serait devant les Américains sans aucune difficulté, il n'y a aucune raison. Ensuite, il y a une autre peur, c'est toutes ces affaires de terres rares, etc.
Ah oui.
Là aussi, il faut qu'on arrête d'avoir peur. On a découvert un énorme gisement en Norvège. Il y en a en Australie, il y en a et je suis sûr que si en France on avait envie de chercher, mais
on
revient à ce qu'on disait au départ, c'est qu'on n'a pas envie en fait.
Ah oui.
Donc il y a quand même un sujet culturel. D'ailleurs, quand je dis il y a des gens autour de moi, mais vous rendez compte que sous l'île de France, il y a plus de gaz de schiste qu'en Russie, mais ça les intéresse pas et c'est sale en plus. Et quand je leur dis mes propres équipes, quand je leur ai dit on va faire de l'intelligence artificielle pour tel truc, m'ont dit ah mais ça va consommer l'électricité. Mais ça va pas à la tête. Ça va pas à la tête. J'ai été à l'hôpital et j'avais un truc bizarre à l'hôpital. J'avais une espèce de cicatrice. Personne ne savait ce que c'était. Alors, ils ont cherché, ils ont fait venir des infirmières. Ils ont fait venir une infirmière d'un hôpital à 200 km de là pour regarder. Ils m'ont donné quelque chose et ça a marché. Bon. Eh ben, j'ai pris la photo de la cicatrice. J'ai demandé à ChatGPT ce qu'il fallait faire. Il m'a sorti la même chose.
Ah.
Alors, bon sang de bois. Est-ce que les 2 grammes de carbone qu'a généré cette requête sont vraiment supérieurs au déplacement de 4 infirmières, au bavardage avec des dizaines de docteurs? Non mais franchement, à un moment, il faut arrêter d'avoir peur, quoi.
Bah oui.
Faut atterrir.
Oui, oui. Le principe de précaution, ça nous tue aussi, ça.
Il faut y aller.
Ça va trop vite.
On essaie, et si on fait des bêtises, on arrête ou on change.
Oui.
Mais on n'a pas peur.
Tout à fait.
Alors
important
ça, c'est
ce que vous
chose.
Dites là.
Et alors ensuite, il y a une troisième chose, c'est que c'est très très loin d'être fini. Je crois que je vous ai parlé vaguement du quantique la dernière fois. Il y a un truc qu'il faut savoir, il y a certains milieux actuellement dans lesquels on dit le quantique va mettre fin à la société de surveillance. Parce qu'en gros, le quantique serait capable de craquer tous nos systèmes de protection actuels qui fonctionnent sur la base de clés asymétriques, etc. Mais ce que ces gens-là ne savent pas, c'est qu'il existe une cryptographie quantique aussi, dans laquelle la France est très très bien placée. La cryptographie quantique, à date, elle, est absolument incraquable, y compris avec des méthodes quantiques. Et donc, ce qu'on vit actuellement sur l'intelligence artificielle, qui est la suite des systèmes experts, ça n'est qu'une étape. On n'est pas du tout à la fin de l'histoire, mais pas du tout du tout. Et le quantique, c'est une nouvelle mathématique. C'est une mathématique où le signe égal n'existe pas. Alors des fois, pour énerver mes amis de certains camps, je leur dis, mais vous savez, l'identité, dans la vraie vie, ça n'existe pas, parce que dans un monde quantique, l'identité, ça n'existe pas. Donc vous l'oubliez, supérieur, ça n'existe pas, inférieur non plus, égal non plus. Et c'est une mathématique entièrement nouvelle à développer. Et on est très bien placé là-dedans, et on n'est qu'au début. Donc non seulement il faut qu'on s'y mette, non seulement il faut qu'on n'en ait pas peur, mais en plus, il faut qu'on se dépêche d'avancer, parce que il y a des places à prendre. Et effectivement, ceux qui vont rester sur les architectures de sécurité classiques et arithmétiques, ils vont se faire manger tout cru par les autres.
Heureusement qu'on a Radio Courtoisie, qu'on peut vous inviter pour savoir ça, parce que je suis en train de découvrir des choses.
La cryptographie quantique, c'est un vrai sujet, et on en parle derrière des portes fermées dans les ministères, maintenant. Pas dans 10 ans.
Un papier, on va le diffuser sur tous nos sites, parce qu'on représente quand même beaucoup de monde. J'ai eu hier un type à Valence qui nous dit « J'écoute vos émissions sur Radio Courtoisie, etc. » et je les diffuse à ses amis à Valence. Donc c'est ça qu'il faut faire. Mais ce que vous êtes en train de nous dire est extrêmement important. Guy, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah ben si on est en plein dans l'essor technique, moi je félicite cette nouvelle génération qui s'est lancée à fond dans ces nouvelles technologies, hein, parce que c'est l'avenir, c'est des outils qui vont nous rendre plus performants. Et là, bravo à toutes ces équipes, Eric et d'autres, qui se lancent envers et contre tout, je dirais, hein, parce que beaucoup les ignorent. l'administration française vous snob, je pense, et les seuls contrôles que vous devez avoir, ou vous risquez d'avoir dans vos entreprises, c'est un contrôle de l'inspecteur du travail, savoir si vous dépassez par les heures, et si autre. Mais ce que vous faites, c'est indispensable pour le pays, ils en sont parfaitement incompétents.
Absolument.
Ils ne savent pas du tout ce que vous faites.
Sur l'histoire de la France qui ne sait pas vendre.
La France ne sait pas vendre, alors je ne suis pas tout à fait avec vous. Je pense qu'on a un premier souci. C'est que nous avons de très bons vendeurs sur notre pays. Par contre, nous n'avons pas de réseau. Nos amis hollandais, allemands, je pense que ceux qu'on connaît parfaitement, ont des agents, des représentants dans tous les pays du monde. Ils sont partout. Et eux, ils ramènent des commandes qui ramènent à leur siège, qui ramènent à leur usine. Il faut savoir, par exemple, les Hollandais, c'est eux qui nous revendent des produits chinois. Beaucoup de produits transitent par les Hollandais qui ont phagocyté le système et ils revendent. Ils sont plus malins que les autres. Ils ont mis des circuits privilégiés. C'est une modeste démonstration que je souhaiterais faire. Mais il nous faut aussi des agents dans tous les pays du monde. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric. Pour vendre notre service, mais non pas seulement sur notre modeste hexagone, mais aller plus loin, sortir de l'Europe. Plein de pays attendent nos ingénieurs. Donc, je pense que vous êtes encore prêts, vous, la génération numérique, de prendre la valise et aller vendre ça dans le monde entier.
Alors, moi, j'avais deux commentaires là-dessus. Le premier commentaire, c'est qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est invraisemblable qu'on ait encore autant de gens dans les services centraux de l'État. Avec l'intelligence artificielle, on a plus besoin de tous ces gens. On va probablement faire des formations initiales avec l'éducation nationale qui seront beaucoup plus courtes. Toutes ces choses doivent être fondamentalement réformées. C'est invraisemblable que l'État représente 55% du PIB dans un système où on a mis en place l'intelligence artificielle. Moi, aujourd'hui, maintenant, chez certains clients où on déploie l'intelligence artificielle, les fonctions support dans les entreprises sont divisées par deux ou par trois. Donc, imaginez que l'État ne bouge pas dans cette situation, c'est invraisemblable. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que lorsque Donald Trump va faire son numéro de claquette avec Zelensky pour lui dire « Oui, t'as des problèmes dans ton pays, machin, truc, bidule », ce qu'il est en train de négocier, c'est les terres rares de Zelensky.
Bien sûr.
Si nous avions encore un État profond qui fonctionne, on aurait 25 mecs actuellement en Norvège en train de mettre en place le système pour leur miner leurs terres rares et les envoyer directement chez nous pour qu'on ait un Nvidia chez nous et pas aux États-Unis ou à Taïwan ou je ne sais où. C'est ça le travail de l'État. Le travail de notre État doit être d'organiser la production pour relocaliser chez nous des industries. Il faut qu'on fabrique des téléphones portables ici, il faut qu'on fabrique des processeurs graphiques ici, et il ne nous manque qu'une filière. Et la filière, on peut tout à fait la créer. Et la Norvège n'est pas l'ennemi de la France aux dernières nouvelles. Hein.
Je voudrais revenir deux secondes sur ce qu'a dit Guy concernant la vente avec la Hollande qu'il a citée. La Hollande a toujours été un pays vendeur et elle vendait énormément de produits fabriqués en France. C'est un pays de vendeurs. Elle a navigué, elle est allée vendre. L'Italie, exactement pareil. L'État français, il y a peut-être une raison, c'est qu'en définitive, les grandes villes en Hollande étaient au bord de la mer, en Italie étaient au bord de la mer et Paris est au centre de la France. Donc le français est plutôt terrien que comme des mers. Je vous demande deux secondes, il y a un petit Bob Beno qui va nous passer.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Merci. On repart sur l'entreprise parce que c'est quand même, si vous le permettez, c'est quand même l'avenir de tous les pays dans le monde. Je pense que le politique a perdu la main. Il faut qu'il la retrouve, ça c'est clair. J'ai eu un long entretien avec François Guillaume, l'ancien ministre de l'Agriculture, il y a 48 heures, et qui me parlait de la disparition de l'État profond. Il écrit d'ailleurs un livre qui doit sortir ces jours-ci. C'est extrêmement important. L'entreprise, ça doit passer pendant quelques décennies par-dessus tout. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
C'est évident. Pour repartir, il faut qu'on ait plus d'entreprises que ce qu'on a aujourd'hui. tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise. C'est quand même quelque chose d'assez particulier. Oui. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui comprend les flux et les jeux de pouvoir. Et il n'y a que maximum 20% de la population qui comprend ça. La question, c'est aujourd'hui en France, on a des gens qui ont envie d'être chef d'entreprise. Aujourd'hui, ces gens qui ont envie d'être chef d'entreprise considèrent que recruter, c'est un mal nécessaire à éviter aussi longtemps que possible. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, c'est que les mêmes considèrent que fabriquer quelque chose en France, c'est impossible. Ben, c'est sur ces deux sujets-là qu'il faut travailler. Il faut que l'État décide qu'au moins dans certains secteurs, il faut qu'on refabrique en France, il faut qu'on décide qu'on va fabriquer des drones militaires en France, il faut qu'on décide qu'on va, je sais pas moi, refabriquer des batteries en France en créant la filière qui va bien pour obtenir le matériau de base. Si on a la filière qui va bien pour fabriquer le matériau de base, ça veut dire qu'on va aussi faire des panneaux solaires. Enfin bref, il faut qu'on décide qu'on va faire ça, et il faut que l'État mette en place les dispositifs pour récupérer les matières premières qui permettent de créer toutes ces entreprises. Et ensuite, ça va venir tout seul. Je veux dire, André Citroën et Louis Renault, ils ont créé leur société parce que ils avaient la Seine sur laquelle il y avait des bateaux, il y avait du minerai qui arrivait, il y avait du charbon qui arrivait, ils pouvaient construire les usines. Aujourd'hui, vous essayez de faire la même chose sur la Seine, vous allez finir en garde à vue. Hein.
Ah oui, oui.
Donc, le problème, c'est qu'on peut pas. Donc, pour qu'on puisse...
Il faut...
Les gens...
Faut tout remettre à plat.
Je ne sais plus qui disait à Louis XIV, chaque fois que votre majesté crée un poste, Dieu crée un imbécile pour l'acheter. C'est, là, pour les chefs d'entreprise, c'est un peu pareil. Si on crée une filière qui permet des prix compétitifs sur un marché précis, les chefs d'entreprise vont venir.
Il y a quand même un problème d'instruction aussi. Il y a l'école. L'école actuellement, si vous n'êtes pas un phénix, si vous n'êtes pas bon... Vous partez de l'école avec rien. Dans le temps, du temps de mon époque, à 14 ans, celui qui ne pouvait pas aller plus loin passait un certificat d'études. Puis c'était l'apprentissage avec des patrons qui, pendant 3 ans, lui faisaient apprendre un métier. Et on avait des gens qui connaissaient les métiers manuels parfaitement. C'est terminé aujourd'hui. Il n'y a plus grand monde dans ce domaine.
Ah, le sujet qu'il y a... Moi, maintenant, j'ai une entreprise qui est un peu plus établie qu'il y a 20 ans, et j'ai bien vu, c'est que, en fait, ce sont les âmes bien nées qui bénéficient d'une éducation favorable de nos jours. Il y a 50 ans, c'était pas vrai. Moi, quand j'étais à l'école d'ingénieur, ça fait 32 ou 33 ans maintenant, il y avait quand même pas mal de fils d'ouvriers, il y avait des gens qui venaient de banlieues très défavorisées. Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout.
Il n'y en a plus du tout.
Et c'est ça le problème, c'est que si on essaie de faire une course, et que dans le pays d'en face, il y a un 7 sur 8 qui ont fait de bonnes études, et que chez nous, il y a un 2 sur 8 parce qu'il n'y a que 2 sur 8 qui sont bien nés, et ben on n'a aucune chance de gagner.
Ah oui. Donc on a un problème de formation. On a évité, en définitive, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a évité l'école, on a évité une partie de l'école professionnelle. Ma fille avec sa salopette, ça m'a choqué. Mea culpa, mais c'est un petit peu... Enfin, c'est pas tard pour elle parce qu'elle a une bonne place. Mais tout le monde, tous les parents ont fait pareil. Ils ont voulu... ma mère voulait que tous ses enfants soient instituteurs. Bon, et mon père voulait... Il était ingénieur, voulait pas que ses enfants soient ingénieurs. Et surtout dans le bâtiment. Donc on a rejeté un tas de choses pour rêver à des métiers où on faisait rien. Et la suite, ça a été les 35 heures, ça a été des semaines de congés, ça a été plus le plaisir que le travail... sans se douter un moment qu'il fallait falloir arrêter un jour et qu'on se remette à travailler plutôt qu'à se promener et à s'amuser. Donc il y a un manque de formation, il y a aussi peut-être un manque d'éducation. C'est-à-dire que l'école n'éduque pas, n'éduque plus, les parents ont rejeté les choses. Pourquoi ? Parce que souvent ils se sont trompés. Hein. C'est un petit peu ça. Donc on a des gamins qui sortent à 25, 26 ans des écoles sans rien ou pas grand-chose et qui donc ne feront rien. Et ça, c'est un problème parce que qui va faire des entreprises ? Si le type, le chef d'entreprise, est capable et il est tout seul, ça ne va pas aller bien loin. Hein. Il faut qu'il soit quand même entouré, qu'il y ait des équipes, etc. etc. Enfin, j'ai du mal à concevoir l'entreprise de demain alors que je sais qu'il faut des entreprises pour demain.
Si vous voulez, moi, j'ai envie de dire, comment voulez-vous que les gens s'occupent les uns des autres au sein de structures, alors qu'ils n'arrivent même pas à faire des enfants et à s'en occuper. C'est quand même un vrai sujet.
Tout à fait vrai.
Et moi, j'ai été frappé, je suis allé voir un film sur un jeu vidéo bien connu avec mon fils, et j'ai pris une leçon de vie. Dans ce film, tout le monde est célibataire. Tout le monde est lamentable, et tout le monde ne s'occupe que de lui-même. Mais comment voulez-vous que ça fonctionne? Ça ne peut pas marcher.
Quel est le titre du film, par curiosité?
Non, c'est le nom du jeu, alors je ne vais pas le dire. Mais oh, c'était
si vous mettez des guillemets, c'est tout.
C'était vraiment spectaculaire.
Oui.
C'était vraiment spectaculaire. Et je ne suis même pas sûr que les gens qui ont fait le scénario s'en soient rendus compte. Je ne suis même pas sûr.
Oui, oui.
C'est ça qui est incroyable.
Ah oui. On a le problème du travail. Est-ce que d'un seul coup, on s'est mis à ne pas aimer le travail? Moi, je ne sais pas, j'ai 86 ans et j'ai toujours envie de travailler. J'ai pris ma retraite à 73 ans, ma retraite officielle, et je n'ai pas arrêté depuis de travailler. Guy, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Il n'a pas arrêté non plus.
Il n'a pas arrêté non plus.
Les générations changent. Moi, j'ai une petite question tout à l'heure.
Oui.
Eric a parlé des drones. Je me rappelle lors d'une intervention au Sénat où tu nous as annoncé que tu avais des grands projets de faire des petits drones militaires, j'entends. Et j'étais très surpris que dans la salle où nous avions l'un des militaires, de haut niveau, hein, de la Direction Générale des Armées, qui ont dit « Ah non, il faut que ça soit réservé aux grandes entreprises, je ne les cite pas, mais tout le monde connaît, Thales ou d'autres. » Est-ce que tu penses que le combat qu'il y a entre certaines entreprises franco-françaises peut nous empêcher de développer, par exemple, ce produit, si vous parlez de drones civils et militaires, mais des petits, hein, puisque les Russes en font en série, ils en font des milliers, je crois, apparemment, par an. Est-ce que tu penses qu'il y a un secteur qui peut être développé à côté des grandes entreprises, sans vouloir être racheté après, parce qu'il y a aussi une lutte interne qui est un petit peu délicate. Est-ce que toutes les grandes entreprises jouent vraiment le jeu de nos couleurs? Mais c'est d'abord eux, et puis il y a les autres, les petits sous-traitants, on est prêt à les racheter ou à s'en débarrasser. Est-ce que tu peux développer ce sujet?
Ah bah là, en l'occurrence, ce n'est pas de milliers dont on parle, c'est de millions. Et en Ukraine, il n'y a que des petits fournisseurs, parce que les grosses usines se font éclater du jour au lendemain. Donc il n'y a que des petites unités. Et ça, c'est une vieille tradition française aussi, ça date des corporations. On n'aime pas trop la concurrence en France, donc ça leur fait. Mais c'est absolument indispensable. Je veux dire, pour l'innovation, c'est connu. Il y a un livre qui est très connu, je crois qu'il est traduit de l'américain, qui s'appelle Le dilemme de l'innovateur. Si les grandes entreprises étaient capables d'innover, ça se saurait. Donc, il faut qu'elles acceptent qu'un certain nombre de prototypes, un certain nombre de pré-séries, tout un tas de choses, sont forcément faits par des PME. De la même façon qu'il n'y a plus un seul grand labo pharmaceutique qui développe ses propres molécules.
Oui.
Les molécules sont développées par ce qu'on appelle des biotech et elles sont rachetées en phase 1. Ça n'existe pas. Je suppose que beaucoup des auditeurs savent que le fameux vaccin Pfizer, c'est pas Pfizer qui l'a développé. Non seulement il ne l'a pas développé, mais il ne l'a pas produit non plus. Il a pris une licence auprès d'une société qui avait été créée, qui était une biotech, et cette licence avait elle-même exploité un brevet qui avait été développé par une société chinoise. Donc, bien sûr que non, que ça ne peut pas être des grandes entreprises qui font le défrichage, ce n'est pas possible. Par définition.
C'est extrêmement...
Et donc les petites entreprises, PME, peut-être d'une façon ou d'autre, parce qu'on n'a jamais... On a parlé il y a 20 ans, on parle maintenant de Small Business Act, qui impose à l'État français déjà de racheter une partie, par exemple, je prends des drones qui seraient faits par les petites entreprises françaises, mais pas tout racheter par avoir des grands groupes, qui sont des fois internationaux, qui peuvent du jour au lendemain changer de macaron.
Tout à fait. Et j'avais vu un reportage comme ça. Bon, il se trouve que c'était du côté ukrainien, mais où ils montraient comment on utilisait, je crois que c'était les Césars en Ukraine. Et ils faisaient la désignation de cible. Et les Ukrainiens utilisaient des drones, ils en mettaient trois au-dessus de la cible, et ils faisaient de la triangulation. Et le reporter leur disait, mais vous n'utilisez pas le système de contrôle de tir fabriqué par le fabricant français? Et les Ukrainiens disaient, mais attends, c'est un gros truc, ça met une minute à faire le calcul, et la console vaut 50 000 euros, on la casse régulièrement. On préfère utiliser trois drones à 500 balles. Bah évidemment. Donc on est complètement en jeu là. Et on se retrouve dans la même situation que les Allemands en 1941 en Russie, où ils avaient leur Panzer III avec son tout petit canon qui était une machine magnifique qui marchait très bien. Et en face, les Russes avec leur gros T-34 où il n'y avait même pas de radio dedans, mais il y avait des chemins larges, il y avait un gros canon, il y avait un bandage incliné. Bah, les T-34, ils mettaient la ratatinée au Panzer III. Et là, c'est pareil. Si un outil qui vaut 500 balles fait presque le même boulot qu'un outil qui vaut 50 000 euros, on peut être aussi riche qu'on veut, on va perdre.
Eh oui. Le gros problème, quand je vous entends, que j'écoute Guy ou Eric, en définitive, la France qui a adopté, certainement grâce à un socialiste qui s'appelait Mitterrand, mais qui était, je le dis souvent, le dernier président de droite que la France ait eu.
C'est ça.
Nous ne sommes pas des libéraux en France. Hein.
Non.
C'est ça, on vit dans un monde où le libéralisme a commandé, et nous ne sommes pas des libéraux.
Ouais, mais en même temps, on a tous les penseurs libéraux en France.
Et en plus
C'est tout le paradoxe.
C'est un paradoxe, oui. Mais j'écoutais l'autre jour François Guillaume, et j'écoutais, et il reparlait de l'état profond. La liberté aux entreprises, bien sûr, mais l'état français, l'état profond qui guidait, qui ceci, qui cela. Vous dites, on n'aime pas la concurrence. On ne l'accepte pas, la concurrence. On l'aime pas, j'en sais rien, mais on l'accepte pas parce que c'est plus facile s'il n'y en a pas. Puis tout un tas de choses comme ça. Nous vivons à côté d'un monde dans lequel nous sommes plongés. C'est ça la vérité. Qu'est-ce que vous en pensez, Guy ?
Moi, si vous voulez, puisqu'on parle de réflexion à d'autres niveaux, moi, je voudrais dire une chose. Aujourd'hui, plutôt qu'écouter un professeur d'économie inconnu, qui paye ses impôts d'ailleurs aux USA, pourquoi on n'écoute pas les économistes sérieux, proches du terrain, je pense à Marc Touati, à Agnès Verdier-Moulinier, qui nous disent, mais il faut qu'on économise, il faut qu'on retourne dans un système libéral, sortons de cette ornière sur laquelle le précédent, puisqu'il faut parler de ce professeur d'économie franco-américain, qui veut absolument imposer tout le monde, prendre l'argent des entreprises qui ont investi, et leur capital, parce que c'est souvent ça, tout ça parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc c'est peut-être là aussi, il faut dire, arrêtons, ayant un bon sens, vous parlez tout à l'heure de François Guillaume, le bon sens paysan, ou revenir en terre à terre, travaillons sur des gens sérieux, je vais parler de Touati, mais j'aurais pu en parler d'autres, hein, qui savent exactement comment redresser des entreprises, comment redresser notre pays, c'est je pense, aussi une de nos finalités. Et après, si vous voulez, j'ai trois petites questions à vous poser, qui sont des sujets de grande actualité, toujours sur les entreprises, bien entendu. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je parlais de notre économiste qui veut nous taxer 2% des fonds sociaux des entreprises, qui après se retrouvent avec des fonds sociaux qui sont partis à l'extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah bah on connaît la fin de l'histoire, les entreprises en question vont transférer leurs sièges sociaux et leur capital et on va y perdre. La réponse qu'il faut faire à ce monsieur, c'est que le problème n'est pas tant que Bernard Arnault ait fait fortune, le problème c'est que personne ne peut plus faire fortune comme Bernard Arnault pour lui piquer sa place de nos jours en France. Donc ce qu'il faut, c'est à nouveau, c'est la concurrence. C'est la concurrence qui brise les monopoles établis. Donc il faut un retour à la concurrence. Le jour où on l'aura, si n'importe qui peut devenir aussi riche que lui, on va être moins jaloux. Hein.
Et dire aux gens, dans ma génération, on connaissait bien Pinault, qui était marchand de bois.
Oui.
Et qui a des cailloux velus, etc. Comme la famille Bolloré vendait des papiers et cigarettes pour nos anciens, et sa papeterie, ils ont arrêté, mais ils ont fait autre chose. Donc ça veut dire que l'esprit d'entreprise de tous les Français, hein, j'ai cité un Breton, Pinault, je crois que c'est un Breton également, qui ont, au cours de leur carrière, et suivant un petit peu la volonté politique de certains, profiter d'un marché. Il faut bien, c'est pour ça que tout à l'heure je t'ai demandé la parole sur les drones. Les drones, on doit en faire, parce que si un jour on est attaqué, on n'a même pas un drone, des petits drones pour se défendre, qu'est-ce qu'il en sera? Donc, imposons ce marché et déclarons. Deuxième point que je voulais souhaiter, bon, je veux dire, l'importance pour les entreprises, c'est le coût de l'énergie. Nous devons dire actuellement non au PE3. PPE3, vous savez qu'aujourd'hui, ce plan, qui est d'ailleurs refusé par les scientifiques, est actuellement la signature par le Premier ministre. Il suffit d'un décret. Celui qui signe, et demain, votre facture sera multipliée par deux. Nous avons délaissé cette importance, c'est qu'on s'est battu pendant des années, et Henri Huguilla, Eric également, pour dire donnons énergie pas chère à nos artisans, à nos commerçants. Nos boulangers sont en train de disparaître au prix où est le prix d'électricité. Donc, il nous faut aussi nous battre à l'extérieur. Et je compte, Henri, sur les politiques pour dire stop, ça suffit. Hein, il faut mettre un arrêt à cette folie de vouloir nous imposer des éoliennes où on connaît le problème. Pour ceux qui étaient avec nous le 19 juin, rappelez-vous que le blackout espagnol, on sait maintenant que ça vient des énergies renouvelables. Personne ne veut le dire parce que celui qui dit ça, il est fusillé. Par contre, nous, on dit stop, il faut arrêter ces investissements. C'est des centaines de milliards que l'État va jeter par la fenêtre, par les éoliennes en mer, qui ne nous rapportent rien. Si, des ennuis pour la régulation en ligne pour EDF, avec cet intermittent qui doit être prioritaire, il oblige nos centrales à s'arrêter et avec des contraintes que l'on connaît et des arrêts techniques. Donc, est-ce qu'on ne peut pas vraiment dire non? Toutes les entreprises ne veulent pas de ce PPE3 qui n'est pas adapté. Par contre, il faut développer nos industries. Ça sera d'autres sujets, mais je voudrais qu'on puisse répondre à ça. Quel est le poids des élus et des entrepreneurs en disant stop, on ne veut pas d'une énergie dont le coût sera multiplié par deux?
Alors, je vais répondre déjà sur les taxes à 2%. Je laisserai Eric après et Alain répondre s'ils le veulent. Celui qui a proposé de taxer les riches ou hyper riches ou je ne sais pas quoi est un abruti. On n'aime pas en France qu'on parle d'impôts. Que ce soit taxer les riches ou taxer les pauvres, on n'aime pas. Pourquoi? Parce que quand vous n'êtes pas hyper riche, vous espérez le devenir, et l'espoir de devenir hyper riche était l'espoir de devenir un futur imposable. Donc, en plus de ça, il faudrait savoir qu'est-ce qu'un hyper riche, est-ce que le travail, le pas le travail, etc. Trop compliqué, ça ne passera pas. Maintenant, le coût des énergies, ça me fait penser à notre ami Loïc Le Floch-Prigent qui s'est battu. La France est un pays souverain. Elle est souveraine. L'État est souverain depuis les traités de Westphalie où on a rejeté les empires. Qu'est-ce qu'on est allé s'embêter avec un empire européen qui détermine des normes qui ne sont pas acceptables et qui ne sont surtout pas supportables? Je passe après la parole à Eric, mais je voudrais signaler un troisième volet. Pardon. On nous a enquiquinés, on est en train de nous enquiquiner avec les histoires de taxation des hyper-riches. On nous a enquiquinés avec la réforme des retraites. On nous enquiquine. Mais le gros dossier, celui qui va venir, que je sens arriver, c'est celui des héritages. Là, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que les Français vont se fâcher. Même celui qui n'a rien à donner à un héritage veut absolument préserver un héritage qui lui serait possible à confier si cela existait. Pas question d'y toucher. Donc nous allons buter contre des choses donc, que des politiques, parce que là il s'agit de politiques ou de syndicats qui sont en train de s'élever contre des trucs qu'ils ne connaissent pas. Eric, qu'est-ce que vous en pensez?
D'abord, je voudrais faire une remarque liminaire sur la fameuse taxe de 2%. On nous a dit, les Français ne comprendraient pas quand on leur demande des efforts que les riches n'en fassent pas. Et donc, moi je contrapose, je suis matheux. Si les riches font un effort, alors ça veut dire que les Français peuvent payer beaucoup plus d'impôts. Eh bien moi je dis non. Voilà. Nous autres, les entrepreneurs, on est très mal organisés. Nos organisations syndicales ont très peu de cotisants et on ne sait pas se défendre. La première augmentation des tarifs d'électricité qu'on a subi ces 3-4 dernières années, elle a mis un certain nombre d'entreprises par terre. Dans le surcroît de dépôts de bilan qu'on a en France, il y en a une bonne moitié qui sont dues aux tarifs de l'énergie. Si on fait belote rebelote, eh ben on va encore perdre énormément d'entreprises, et ce pour rien. Parce que ces prix ne viennent de nulle part, puisque l'énergie qu'on consomme aujourd'hui est produite par les centrales nucléaires, c'est les mêmes qu'il y a 10 ans, qui sont amortis, avec les mêmes frais de leur côté. Donc c'est une absurdité totale, c'est-à-dire c'est une convention qui a été prise avec l'Allemagne pour nous ruiner. Et nous, bêtes et disciplinés, on se ruine. Ça n'a absolument aucun sens. Et donc il faut absolument que les entrepreneurs français, c'est la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure, il faut qu'ils fassent équipe et qu'ils disent non et qu'ils fassent du bruit. Allez. Et c'est pas parce que c'est le problème des entrepreneurs, c'est que ils disent ok, je vais sortir, je vais aller perdre mon temps pour aller dire à un élu qu'il faut arrêter ses sottises pour rester poli. Pour rester poli. Et oui, c'est vrai. Si ça se trouve, ça servira à rien. Et si ça se trouve, si t'y étais pas allé, ça aurait été annulé quand même. Mais n'empêche que si on réfléchit tous comme ça. À la fin, c'est désastre.
Et voilà.
Et donc, il faut qu'on apprenne le travail en commun. C'est quelque chose que la gauche sait mieux faire que nous. Et ben nous, il serait peut-être temps qu'on s'y mette.
Et encore, quand vous dites que la gauche sait mieux faire que nous, c'est pas certain du tout, parce que regardez ce qui se passe actuellement. La gauche se divise, s'engueule, etc. Moi, je pense que non. Mais il va falloir. Vous disiez tout à l'heure qu'on n'aimait pas la concurrence. Oui, on n'aime pas la concurrence parce qu'elle est gênante et en définitive. Les entrepreneurs voudraient bien que le concurrent soit gentil avec eux, ils ne voudraient pas être rentrés en concurrence, et c'est ça le gros problème au départ. Alain, vous voulez ?
Moi, je voulais simplement rectifier l'expression qu'emploie Eric, très amicalement, quand vous dites « nous, bêtes et disciplinés », non, eux, bêtes et disciplinés. C'est un petit peu comme lorsque Henri, là, vous disiez, oui, nous, les ouvriers, on n'aime plus trop l'industrie, etc. Mais est-ce que vous avez vu un secteur industriel vendu tel que l'aluminium ou autre, avec le souhait des ouvriers ? Tous les ouvriers se sont battus contre ces grandes ventes d'actifs industriels, contre le déplacement des usines d'automobiles dans des pays ailleurs. S'il y a des gens qui se sont bien battus, ce sont les gens qui y travaillaient. Les gens veulent travailler, les ouvriers étaient contents de travailler, et on ne peut pas leur attribuer aujourd'hui ces conséquences. S'il y a vraiment des gens qui ont même freiné, d'ailleurs, ces disparitions d'actifs, ce sont bien les gens qui travaillent. Et donc, Ça veut dire aussi que instantanément, dès que les conditions sont autorisées, parce qu'il suffit juste d'une autorisation, les gens se remettent au travail avec plaisir, avec joie, et ils retroussent les manches. Ils ne demandent que cela.
Il y a même, je pense, une démonstration paroxystique de ce que tu dis, c'est que actuellement, la plupart des partis politiques se battent pour que l'Assemblée ne soit pas dissoute.
Bien sûr.
Parce que ça leur coûterait fort cher, c'est 577 députés, donc tous les moyens sont bons pour que ça dure encore un petit peu.
Tout à fait.
Voilà. Alors qu'il y a 90% des Français qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'on passe à autre chose, justement.
C'est que ça avance. Les choses avancent, bien
donc
sûr.
Donc là, on a un paradoxe absolu, on a une représentation nationale qui est censée être constituée de députés représentatifs, qui exprime une volonté diamétralement opposée à celle de l'essentiel de la population.
Sur les héritages, il nous reste 5 minutes. Guy, je vous laisse la parole le premier. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Sur les héritages, si vous me demandez ce que je pense de ce qu'a dit Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, c'est une ânerie de socialiste. Bon, elle était déjà socialiste, donc elle ne change pas de la même référence. Bon, elle veut taxer les héritages. On sait déjà que la France, cet impôt sur la mort, je crois que c'est un des plus forts en Europe. On arrête, c'est de la poudre aux yeux pour éviter une chose, c'est qu'on dise une fois pour toutes que le budget de l'État doit être réduit de 5 à 10%, en particulier. Alors avec Marc Tuati, c'est tout, il n'y a pas d'autre solution, et que ces 10% ne soient pas envoyés simplement en économie, mais soient réinvestis, par exemple sur l'économie qui marche le plus mal, c'est le logement, où c'est une catastrophe nationale, les chantiers se sont en train de s'arrêter.
Tout à fait.
Les gens cherchent des logements, il n'y a plus rien.
Ah oui.
Il n'y a plus rien. Donc, cet argent, et il faut l'argent, donc il faut, excusez-moi, c'est du rap-tour, il faut prendre l'argent de l'État et le remettre dans des priorités, qu'elles soient les entreprises, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, ou le logement, et à d'autres, mais au moins, quand on dit toujours, ce sera ma dernière expression, c'est que quand le logement va, tout va. Donc, pour un homme du bâtiment, c'est normal que je vous dise ça.
Oui.
Vivement une reprise du logement, de la construction, pour vraiment répondre à l'investissement et que ces entrepreneurs du bâtiment, qu'on connaît tous bien, très variés, très français, retrouvent du boulot. Et ça, c'est une priorité. Moi, je vous remercie pour tout ça, si Henri.
Je vous remercie d'avoir bien voulu intervenir, parce que je sais que vous êtes blessé. En ce moment, c'est vraiment les vents mauvais. Hein. Vous êtes blessé, notre ami le général Menu, qui a perdu un proche, le docteur Petrosenko, la même chose. On est vraiment sous des vents mauvais. J'espère, Guy, vous revoir bientôt et en bonne santé.
Bien sûr, on se reverra bientôt.
Mais je vous remercie pour cette intervention.
C'est moi qui vous remercie.
Merci, Guy. Merci.
Merci.
Vous avez vous avez quelque chose à dire pour finir? On n'a plus que 3 minutes.
Ah bah, sur l'héritage.
Sur l'héritage.
Ouais, sur l'héritage, je peux dire quelque chose. Quand vous avez une députée qui dit qu'il faudrait le taxer à 100%, j'aimerais bien qu'elle me précise exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma photo de classe qui est restée chez ma mère va être saisie par les impôts. C'est vraiment ça le principe? Et ça veut dire que concrètement, moi je suis orphelin de père, ça veut dire que quand mon père est mort, il aurait fallu qu'on rachète notre appartement.
Bah,
c'est ça dont on parle.
Oui, oui.
Non mais ils sont complètement givrés.
Complètement. Et ils disent n'importe quoi.
Oui. C'est pas sérieux.
Non. Eric, je vous remercie. Je rappelle votre livre.
Alors, le livre d'Éric Lemaire disponible sur Amazon, L'intelligence artificielle, sous-titre, 2 points. Croissance et catastrophe annoncée. Bon, en fait, si on le lit, on est moins catastrophé. Voilà.
Par contre, Alain, je vous en veux un peu, parce qu'il y a quelque chose que vous avez oublié de dire dans ce livre, c'est que je l'ai préfacé.
Oui, c'est vrai, il oublie à chaque fois.
Je dis ça. Oh là là.
Alain,
oui. Préfacé, mais il faudra effectivement, de toute façon, on va en reparler. Préfacé, non pas parce que vous êtes un préfacier, mais parce que vous avez plus que collaboré à l'inspiration d'Éric.
Alors, voilà. c'est pas tout à fait ça.
D'après ce que j'ai compris. Hein.
C'est pas tout à fait ça. Je l'ai pratiquement obligé à publier son livre.
Je ne voulais pas le dire comme
parce
ça.
Parce que j'ai été. Il a écrit un premier livre qu'il n'a pas publié. C'est ce qui m'a fait connaître l'intelligence artificielle. J'ai trouvé que c'était un crime de ne pas le publier. Donc, j'ai tenté de lui faire honte pour qu'il puisse refaire ce bouquin. Je suis très, très honoré qu'il m'a demandé, parce que je ne m'y attendais pas, à ce que je le préfasse. Chers auditeurs, l'intelligence artificielle, croissance et catastrophe annoncée, obligez vos enfants à le lire, parce que c'est demain. Alain, merci. Prochaine émission.
28 novembre.
Le 28 novembre. Je vous remercie tous.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la France Libre, dirigé par Henri Foucreau et assisté d'Alain Roux, émission préenregistrée le 22 octobre 2025, diffusée sur Radio Courtoisie mardi 11 novembre de 14h à 15h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016, Paris.